Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Running.
Benoît Boutron.
Bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour te lancer de nouveaux défis. Avec Johan Durand, l'athlète membre de l'équipe de France, Maître Yodu qui est toujours là. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Comment ça va coach?
Ben impeccable, bon, tranquillement.
Fraîchement.
Écoute, ça galope, fraîchement. C'est ça.
Et je te souhaite un joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre, donc voilà,
ben,
j'espère que
t'as
été
ouais.
sage. J'espère que le Père Noël va te gâter, mon petit gars.
Ouais, j'espère aussi, ouais. Un genou tout neuf, des tendons
voilà.
tout neufs.
C'est tout ce qu'on
forme.
Demande. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais ça
non.
suffit. Alors Johan, on reçoit cette semaine un ami d'RMC Running, un homme qui a vécu une année sportive exceptionnelle, ponctuée par une troisième victoire consécutive sur la Lyon-Saint-Élion, Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, est notre invité, il est avec moi en plateau, salut Alex.
Hello, hello, bah écoutez, moi en ce 24 décembre, bah, j'ai déjà eu tous mes cadeaux cette année, donc je sais plus trop quoi attendre pour demain en fait.
Bah d'autres casquettes peut-être.
Ouais, bah, moi j'ai pas besoin de genoux, moi je cours pas trop, je suis pas comme Johan, donc...
C'est vrai que niveau bornage, t'es pas trop...
Léger. Un petit 10 000 cette année,
voilà.
Très léger.
On est sur des petites saisons. D'ailleurs, la séance sera adaptée à ton profil, Alex. La gestion de la douleur, comment on s'organise pour gérer une douleur en course ou à l'entraînement. Johan va vous donner tous ses bons conseils. Et puis dans le bon plan matos, on va recevoir un autre ami d'RMC Running, c'est Dorian Louvet, qui va venir nous présenter son livre « Mon coach running », un beau cadeau voilà, pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, on vous le rappelle, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement. Vous laissez une note ou un commentaire. Voilà, vous pouvez déclarer votre flamme à Johan Durand, pas de problème. Allez-y, c'est toujours instructif.
Dans les commentaires, allez-y.
Voilà. Et puis vous nous suivez sur les réseaux, Twitter, Instagram ou encore Strava. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Forrest Gump nous rend visite.
Je m'appelle Alexandre Bouchex, je suis plus connu sous le nom de Casquette Verte, j'ai 30 ans, je suis parisien.
Et quoi de neuf, docteur?
Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai à peu près respecté ma stratégie qui était d'accélérer la nuit, partir pas trop vite et accélérer la nuit.
Sur ce départ de l'UTMB.
Et alors, du coup, il y a un coureur qui est encore devant, là, 121. Ici, d'Alexandre Bouchex.
Il est fou ce mec.
Il n'y a rien de facile dans l'ultra en fait, il n'y a pas eu de moment facile, il n'y a jamais de moment facile. Hein.
J'ai gagné la Lyon-Saint-Élion qui est donc l'aller-retour de la Saint-Élion.
Encore, mais à la fin, mais est-ce que ça va finir?
C'est cool.
C'est quoi ton secret?
C'est tout bête, hein. Parfois il suffit d'un bisou pour que ça reparte. Hein. On le dira jamais assez, hein, mais les bisous c'est important.
C'était quoi ça?
Johan, ça marche les bisous pour toi ou pas?
Ah pareil, ouais, c'est hyper important.
Ouais. Non, mais tu sais que nous, on a des ravitaux où on peut s'arrêter, on peut voir des gens, des proches à nous, et donc nous, on a la chance de pouvoir rouler des grosses galoches.
Des grosses galoches.
Et ça, et l'importance de ta maman aussi.
En fait, c'est pas ma maman. Tout le monde croit que c'est ma maman, mais ce n'est pas ma maman.
Ah bon?
C'est parce que j'ai pris, donc pour faire mes ravitaillements sur l'UTMB, j'ai pris quelqu'un, enfin elle a insisté, mais c'est quelqu'un qui est maman de 4 enfants et qui a décidé d'adopter un nouvel enfant qui est moi qui fais les courses. Et en fait, bah, c'est Cécile Bertin qui est une grande spécialiste de l'ultra en France.
C'est incroyable ce truc.
Et en fait, moi j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui fasse mon assistance, qui était capable de me recadrer. Et qui de mieux qu'une maman qui a géré 4 mômes à la maison peut recadrer un jeune parisien comme je le suis. Donc,
c'est vrai que c'était ta mère?
Ah, pas du tout. Bah, est-ce que je suis blond aux yeux bleus? Non.
Non, bon, ouais.
Non, ce n'est pas ma vraie maman, mais disons qu'en course à pied et sur les ultras, c'est ma maman et elle m'a encore assisté là sur la Lyon.
Génial. Eh bah, ben écoute, bravo. On l'embrasse, on la salue parce que c'est courageux. Et c'est très altruiste hein, de faire ça quand même, d'aller assister quelqu'un sur des grandes courses.
C'est pire que tout, ce week-end, là, elle a passé la nuit, elle, entre Saint-Etienne et Lyon, dans le froid, sous la pluie, à m'attendre, et on avait 5 ravitaux, on a regardé, c'est moins d'une minute sur les 5 ravitaux en tout au total. Le premier c'est 4 secondes, deuxième 16 secondes, donc pour me voir le temps que je passe. Quoi.
Ah ouais. Bah, tu m'excuseras, mais moi, je préfère faire l'assistance de Yodu. Ça va plus vite. Alors, en deux heures, c'est réglé. Hop, il y a deux, trois.
Ah, puis on court pas de nuit par moins 5 degrés.
C'est terminé.
Voilà, tu me vois pas. Hein.
Ça démarre à 8 heures. À 10 heures, c'est fini. Et on boit un canon. Bon, Alex, on est ravis de te recevoir. Comment ça va, tout simplement, après cette année qui a été riche, année 2022, magnifique pour toi.
Bah, l'année civile est riche, mais moi, en fait, c'est riche depuis fin 2019. Quoi. Mmh. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir de saison parce que je m'arrête pas. Je coupe pas l'hiver particulièrement. J'ai juste moins de dossards parce qu'il y a moins de courses, mais super année. Je pensais que 2021, quand tu m'avais reçu l'année dernière, était mon climax et que 2022 était en fait le début du déclin du truc. Et pas du tout. L'année s'est encore mieux passée d'un point de vue, on va dire, résultat pur et dur.
Ah ouais.
Et j'ai continué à prendre du plaisir sans trop me prendre la tête. Donc j'ai vécu moi une super belle année. Donc quand c'est que ça va s'arrêter, quoi ? Est-ce que c'est 2023 qui va être maintenant mon 2022 ? Mais je sais pas.
On verra. Alors pourquoi tu cours ? Non, je déconne. Ça, on y a déjà répondu l'année dernière pour aller écouter l'épisode. Voilà, c'était assez marrant. Johan, c'était marrant parce que c'était un de nos premiers épisodes
ouais.
quand on a repris RMC
c'est
Running.
Ça.
Je me rappelle, tu avais découvert ce personnage atypique.
Personnage.
Est-ce
ouais.
que depuis, tu le suis comme ça au quotidien ? Est-ce que tu t'intéresses
à tout
ce qu'il
fait ? Sur les réseaux, donc je le vois. Je vois toutes ses sorties. Enfin, je vois la photo de la casquette avec les kilométrages. Et à chaque fois, je me dis, c'est toujours ouf. De nuit, de jour...
Est-ce qu'elle est sponsorisée, cette casquette ? Elle est neutre, il n'y a pas de marque dessus. Alors, est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce que ça y est, on te livre les casquettes gratos ? Parce que c'est quand même la casquette la plus connue de France.
Non, en fait, je tourne déjà sur 3 ou 4, plutôt 4 ou 5 casquettes, parce que sinon, ça serait réellement crade. j'ai décidé de ne pas mettre de sponsor dessus, parce que j'estimais qu'on ne doit pas mettre, on doit pas tout commercialiser.
Ouais. Elle est belle d'ailleurs, la devanture blanche.
Elle est magnifique, elle doit à peu près coûter 3,50€ sur un site marchand un peu connu dans le monde.
Voilà.
On peut les acheter par l'autre 500, enfin vraiment elle est très rare.
Ouais. C'est donc
vraiment...
t'as du stock, ça va.
Non, j'avais du stock qui date en fait de quand j'étais président du BDE de mon école de commerce.
Et oui, tu me l'avais dit.
Et j'avais la casquette à ce moment-là, mais donc je ne commercialise pas parce que je veux pas être forcément un panneau publicitaire. C'est simplement une casquette un peu à la Forrest Gump.
Tu nous ferais pas un plaisir ? Tu n'en t'en ferais pas gagner une à la communauté RMC Running ?
Ah, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faudra.
Il réfléchit à son carton.
Je réfléchisse à ce que je vais marquer dessus parce que je vais quand même marquer un truc dessus.
Ah, sympa. Ça, c'est un beau cadeau.
Ouais, je pense que tu vois ça, tu peux le revendre, mais cher. Je pense qu'il faut d'ailleurs que ça soit pas un cadeau. Voilà, on va commercialiser quand même la chose, on va faire des enchères et on donnera le fric à une association si t'as une association à protéger.
Et pourquoi pas ? Bah, on verra, on peut organiser ça. On le disait donc, le saltimbanque de l'ultra, hein, c'est comme ça qu'on te surnomme, j'ai vu dans certains articles, voilà, parce que c'est une méthode très particulière. Alexandre Bouchex, évidemment, c'est pas de plan d'entraînement, c'est beaucoup de courses à l'année. J'ai noté un peu ton palmarès, 10 courses, c'est ça, en gros, en 2022, 10
courses
cette année, majeures.
10 courses, ouais.
Voilà. 7 ultra, 10 000 km parcourus, ça y est, tu vas atteindre ton objectif de 10 000, plus de 200 000 mètres de dénivelé positif. En gros, pour vulgariser, c'est un gros objectif par mois à partir du mois de février, Alex. Hein.
Ouais, c'est à peu près ça. Il y a une course ou un ultra à peu près toutes les 4-5 semaines. Donc en fait, maintenant, je suis dans un rythme de course à pied qui est qu'au quotidien, je cours 2 ou 3 heures tous les jours. Mais au final, ce n'est que de l'entretien et il n'y a que en course que je m'entraîne réellement. Donc en fait, c'est voilà, j'ai mes entraînements, il y en a 10 par an. Et entre ces 10 entraînements par an, il n'y a que
balades.
De l'entretien au quotidien. Quoi.
Ah, ça te fait rire, coach. Hein.
Ah ouais, c'est ouf. Il y a 10 compètes, mais il y a 7 ultras quand même.
Ouais, non, mais surtout, c'est cette. Alors, qu'est-ce qui est le plus impressionnant pour toi, Johan ? C'est le fait d'enchaîner les gros objectifs comme ça, parce qu'on va en parler, mais Alex était présent sur la Diag, Alex était présent sur la Lyon-Saint-Élion, sur l'UTMB. Ça t'impressionne plus ou c'est le côté de la course quotidienne d'au moins 2 ou 3 heures ? C'est quoi le plus bluffant pour toi, Johan ?
Bon, franchement, c'est les deux. Hein. c'est les deux parce que c'est avoir toujours la même énergie sur... je le vois, moi je fais du marathon, donc 42 bornes, là, c'est pas la même intensité, mais malgré tout, je me vois pas faire un marathon intense tous les mois, tu vois, être capable de remettre la même énergie à chaque fois, de se remobiliser, tu vois, une fois que t'as fait... une compète de ouf, le mois prochain il faut repartir de nouveau sur un nouvel ultra, un nouveau défi, un nouveau truc avec de nouveau beaucoup de dénivelé Et ouais, non, c'est la capacité à se mobiliser comme ça pour aller toujours se relever un nouveau défi, quoi. Et
je suis totalement d'accord.
C'est pas facile.
Et c'est quelque chose que moi, je me rends compte de plus en plus. C'est-à-dire que, en fait, physiquement, j'arrive, c'est bon, ça tient. Le physique, il est là. Une fois que tu as atteint ce niveau, si tu l'entretiens, tu le perds pas. Mais là, se remobiliser mentalement parlant, mentalement,
c'est ce que j'allais te dire.
Y retourner à chaque fois. Il y a 2-3 moments dans l'année où, quand je les enchaîne, je fais la diagonale fin octobre et 2 semaines après, je pars en Suède. Avec le boulot, la vie, etc.
Et oui, parce que tu travailles encore, bien sûr.
Encore, oui. Bon, alors là, c'est parti encore pour 40 ans, je pense.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pas ton métier d'être
train. Non, la course à pied est un à côté pour moi.
Voilà, exactement.
Et donc, un à côté qui prend autant de temps. Et quand tu les enchaînes, effectivement, tu rentres de la diagonale, tu reprends le boulot et tu te prépares à repartir en Suède 2 semaines après. Ça commence à être un petit peu lourd parce que ça se prépare pas peut-être comme un marathon d'un point de vue logistique. Il y a plus de choses à préparer, à penser, du matos obligatoire, etc.
D'ailleurs, avec cette traditionnelle photo d'avant-course qui est géniale, voilà, on peut voir tout ce que tu prépares, tes petites pistaches, tes carambars, voilà, c'est assez marrant. Non mais cette question de l'usure mentale, elle est intéressante parce que courir tous les jours, c'est quelque chose. Nous, on aime la course à pied avec Johan, donc moi je suis un amateur lambda, Johan c'est un champion. Mais c'est-à-dire que courir tous les jours, ouais, c'est une exigence. Il y a des moments plus durs que d'autres, ouais, sur une année. Je sais pas, est-ce qu'un lendemain de course c'est plus dur ou est-ce que tu es encore sur l'euphorie quand l'objectif a pas été atteint, est-ce que tu as ce côté un peu revanche et tu as envie d'y retourner rapidement. Quels sont les moments les plus durs de l'année finalement pour toi ?
Je pense que les moments les plus durs de l'année, ça va être en ce moment, parce que là je sais que
parce qu'il n'y a plus d'objectif ?
Il n'y a pas de dossard dans les 8-9 prochaines semaines. D'accord. Et donc il va falloir peut-être que ça va permettre de pouvoir me réentraîner réellement.
Ouais.
Ne pas courir simplement 2 ou 3 heures, mais peut-être aller faire des comme on appelle ça dans le métier, des séances spécifiques, ce qui se résume à moi à faire des escaliers à Montmartre.
Voilà.
Mais c'est des moments un petit peu comme ça où je sais pas trop où je vais, j'ai une grosse idée, donc là je sais vers quoi je vais en 2023, mais à court terme, j'ai pas de vision, alors que d'habitude je sais que dans 3 semaines, il faut que j'atteigne une sorte de pic de forme pour être au taquet, et je me quadrille par rapport à ça.
Parce que là on peut se reconnaître, Johan, quand il y a la carotte de la compète, c'est sympa, mais cette période sans objectif, c'est toujours délicat à gérer pour n'importe quel coureur ou trailer, c'est sûr.
Ben surtout celui qui fonctionne comme Alexandre à la compète, quoi, juste à se motiver à chaque fois pour une compète par mois, comme ça, un objectif et un défi, quoi, en gros. Et quand tu fonctionnes comme ça, moi par exemple, je sais que je peux passer 6 mois à m'entraîner dur. Sans problème pour retrouver la forme, revenir à mon meilleur niveau, m'améliorer pour un objectif dans l'année, un seul. Mais lui, c'est différent. Bien. Lui, c'est des défis tous les mois. Et si tu lui enlèves son défi, bah, c'est sûr que là, lui, il a une période où il va s'ennuyer. Ouais.
C'est pour ça que je m'en crée au final.
Parce que tu te crées un défi, mais tu as une idée de défi que tu vas peut-être mettre en place. Je précise d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, on vous souhaite un joyeux Noël évidemment. Mais nous, on enregistre l'épisode la semaine d'après la victoire sur la Lyon-Saint-Élion. Donc forcément, tu as un objectif en tête. Tu vas pouvoir nous le détailler dans un instant. Mais je voulais revenir sur ton parcours donc, de 2022 pour schématiser. En février, il y a eu la trace des Maquisards, l'Eco-Trail en mars, le 100 miles Istra d'ailleurs en Croatie, c'est Croatie. En avril, en mai l'Ultra Maxi Race, en juin l'Ultra 01, une course qui te tient à cœur parce que tu étais tenant du titre, tu l'as gagné 2 fois de suite, c'est ça d'ailleurs ?
Exactement, back to back.
Exactement, juillet l'UT4M, août l'UTMB, octobre l'UTMJ et la Diag, et puis novembre Coulamanen, là où tu es allé gagner et tu as battu le record de l'épreuve, et la Lyon-Saint-Élion évidemment en décembre, donc ça fait une année bien chargée.
La phrase est longue, tu vois.
C'est sacrément long, le mec est épuisé à la fin de la phrase. Déjà t'es fatigué de rappeler tout ce qu'il a fait, donc t'imagines quand il faut le courir. On va peut-être revenir sur cet exploit de fin d'année, donc la Lyon-Saint-Élion, 3e succès consécutif, c'est rare de gagner 3 fois de suite une telle épreuve, 156 km, 390 mètres, 4390 mètres de dénivelé positif. Ton souvenir de cette course, t'as pris du plaisir, tu t'es régalé, comment ça s'est passé ?
Donc j'avais déjà gagné 2 fois, donc quand tu reviens à la 3e, là t'es clairement l'homme à abattre et t'as une grosse cible sur le dos, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé, donc je l'ai vécu un peu différemment. C'est-à-dire que d'habitude je viens pas forcément pour gagner, et là je m'étais dit il faut gagner, faut le faire le 3 fois, ça va être magnifique, le triplé, le tripit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un peu plus d'adversité en termes de concurrents. Ouais. Et au retour, en fait, j'ai eu un autre concurrent qui a décidé de vraiment faire la bataille, de me livrer bataille. Ouais. Et les 10-15 premiers kilomètres, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'attaquait comme les cyclistes s'attaquent dans des cols. Okay. il restait derrière moi, je sentais son souffle sur ma nuque.
Et t'as eu plaisir dans cette bataille, dans ce duel ?
Pas tellement, en fait. Je me rends compte que je suis pas compétiteur, ou sinon j'ai envie de gagner à la loyale et pas justement en attaquant, en faisant des attaques sournoises, en restant derrière lui, en calculant une stratégie qui a été que avant le premier ravito au kilomètre 17, je me suis dit, ok, là j'avais placé 4-5 attaques, j'avais compris que j'étais plus fort physiquement. J'en ai placé une énorme à ce moment-là, je savais que j'enchaînais avec le ravito et je voulais arriver assez vite au ravitaillement pour qu'il ne me voie plus et qu'il ne m'ait plus dans mon champ de vision.
Ouais,
dans
son champ de vision. Moral, quoi.
Mettre un coup au moral. Et donc c'était presque animal quoi comme bataille. Okay. Et je suis pas à l'aise avec ça, moi. Je pense que je viens pas du milieu de la compétition, et l'ultra trail d'habitude on est plus à se ramasser quand l'eau tombe, à se proposer des choses, de l'eau, des ravitaillements entre nous, et on est plus dans une confrérie que dans une compétition. Et là j'ai trouvé un esprit de compétition et
ça t'a pas plu, ouais. pas
je sais rentrer là dedans mais ça me met pas en extase absolue, quoi, mais je sais faire.
Parce que toi, t'as fait la Lyon-Saint-Élion, mais la Saint-Élion, qui est une course mythique, qui est un des trails les plus populaires de France, c'est un profil particulier, puisque c'est un parcours finalement assez roulant, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. C'est quoi, 73 km, je crois ?
Ouais, c'est ça.
Et tout se fait en courant. Donc là, on est vraiment à la limite de la course à pied du trail, quoi. C'est vraiment de la course trail, quoi. C'est que t'as jamais de moment où tu marches et t'es en train de grimper. Finalement.
Ah, tu marches à aucun moment. Ouais, quand t'es devant, tu marches à aucun moment. Moi, les premières années où je l'ai faite, j'ai mis 11 ou 12 heures à la faire, rien que le retour. Ouais. Cette année, je mets autour de 7 heures. Et donc, 7 heures pour 70 km, alors qu'il y a 2000 mètres de dénivelé. Grosso modo, tu cours tout le temps. La difficulté là-bas, c'est que ça se passe début décembre chaque année. Et entre Saint-Etienne et Lyon, début décembre, la météo est, comment dire,
atroce.
Oh, je sais pas si c'est atroce, moi j'adore quand c'est comme ça. Mais c'est,
toi t'adores, mais toi tu prends cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Tu prends très très cher, il fait toujours très très froid. Une année il y a de la neige, une année il y a de la pluie. Généralement il y a du vent, tu te pèles,
tout
il y a
ce
du
verglas.
Tout de nuit.
Tout de nuit, donc tu vois rien. Et cette année, en fait, la grosse difficulté, cette année on a eu un peu de neige, un peu de pluie, mais le pire c'était pas ça, c'était surtout le brouillard. On voyait pas à 1 mètre. Donc quand tu te balances pleine balle, t'es à 13 ou 14 km/h dans des descentes où il y a de la boue et des pierres et des rochers où tu vois rien et tu peux pas voir parce que t'as un brouillard à 1 mètre, c'est une ambiance particulière, c'est pour ça qu'on l'a fait.
Et en tout cas, troisième victoire donc consécutive, magnifique succès pour toi. Reprenons le fil de l'année, donc t'as gagné la trace des Maquisards, ta première course de l'année en février, 78 km, là un peu plus de 2600 de dénive positif. Pareil, quel souvenir tu en gardes de cet événement ?
Bah, je m'en souviens. Mon souvenir qui était assez drôle sur cette course, c'est quand j'arrive, je sais pas que je suis premier. Donc je pensais que j'étais toujours deuxième parce que je savais qu'il y avait un mec devant, mais en fait je l'ai doublé sans m'en rendre compte. Dans une montée, c'est atroce. Et c'est lui qui m'a expliqué ça. Il m'a dit putain, mais t'es passé pleine balle à gauche dans une montée. T'avais pas l'air de réfléchir. Enfin, t'étais déjà quasiment dans ta tête à Yona, quoi.
Et ouais, ça y est. Et ben voilà. Et puis du coup, donc première victoire, première course. Première victoire pour toi. Et on en arrive à fin février, ça va concerner notre séance, mais tu as une douleur qui se réveille à la voûte plantaire du pied droit. Ouais. On est à 19 jours de l'éco-trail, course que tu termineras à la 8e place, donc c'est 80 bornes que tu as traversées en 6h15. Et là, on y est, quoi. Là, toi, il n'y a pas de questions, tu ne te poses jamais de questions, tu te fais mal à la côte, au pied, à la voûte plantaire. Voûte plantaire, c'est très douloureux, hein, faut préciser.
Bah, c'est une aponévrose.
C'est insupportable.
C'était une aponévrose, c'était métatarsalgie. L'année d'avant, j'avais fait l'aponévrose.
Donc, mais, dès que tu poses le pied, t'as mal, en fait.
Ah, bah, grosso modo, ouais, ça me balançait une pique, une pique nerveuse sous les coussinets. Voilà.
Et à aucun moment, tu te dis, je m'arrête. Je fais une croix sur un objectif, je me repose et tranquille, quoi.
Pendant 2-3 semaines, j'ai continué à courir dessus. Au bout de 2-3 semaines, ça devenait plus tolérable. Je n'arrivais plus du tout à continuer à serrer les dents, ou du moins mes dents allaient casser tellement je les serrais fort. Donc là, j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que je suis allé voir des professionnels.
Ah, tu
donc,
consultes quand même, ouais.
Jamais, sauf quand ce n'est plus possible. Ouais. Et donc j'ai un podologue qui m'a fait des semelles orthopédiques. Et le défaut, c'est qu'en plus, ce problème au métatars, ça fait que j'avais adapté ma foulée pour avoir moins mal.
Ah oui.
Et ça a déclenché une tendinite d'Achille. Donc
quand tu dérègles la chaîne.
Ah, mais il n'y avait plus rien qui marchait. Ça remontait après jusqu'à la hanche. Mais le kiné m'avait dit qu'il avait rarement vu une aussi belle tendinite.
Donc, ça croustillait.
Voilà.
Il y avait du sable dans le tendon.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Il connaît. Tu parles. Ah ouais. À Yohan, là, ça ça te parle, hein. Non mais cette compensation d'une douleur, et ça peut être très nocif à long terme.
Hein. C'est le corps humain.
Bah, ouais. Et je le ressens encore à la fin de l'année.
Ouais, ouais. Et oui, bah oui, bien sûr.
J'ai mis deux mois et demi à soigner tout ce truc-là. Donc pendant deux mois et demi, tu continues à souffrir. Mais là, je ressens que j'ai un peu, je vais certainement abîmer mon corps à continuer à courir dessus.
Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu as des courbatures ?
Des courbatures, non. Je connais plus le monde de la courbature. Je ne sais pas ce que
même
c'est.
Même après un ultra, même après la diag, même après.
T'as mal, mais c'est pas des douleurs de courbature, c'est des douleurs parce que tu t'es fracassé les genoux articulaires, ouais. Ou musculaires de temps en temps, un ouais. Tout petit peu, mais c'est très très rare. C'est plutôt des déchirures. Mais non, mais moi, mon grand kiff, c'est justement le lendemain de la diag ou là, le lendemain de la Lyon-Saint-Étienne, c'est retourner courir. Parce que les endroits où tu vas avoir mal ce lendemain, tu vas les identifier comme c'est les endroits où j'ai des faiblesses. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je travaille pour que la prochaine fois, je sois plus performant. Il y a ça, et il y a aussi le fait que moi, j'ai habitué mon corps à ce que de toute façon, le lendemain, il va retourner courir, le garçon. Donc, tu te démerdes, tu te soignes le plus rapidement possible parce que le lendemain, si tu veux pas avoir mal, petit corps, tu as intérêt à récupérer rapidement.
Alors, comment on peut l'expliquer, peut-être pas scientifiquement, mais sportivement, Johan, cette façon de pratiquer son sport, c'est se dire qu'Alex a une énorme caisse et que finalement, comme il repart sur des allures qui sont très faciles pour lui, c'est une sorte de régénération active ? C'est comme ça que ça marche, à ton avis ?
Je pense surtout qu'il a une tolérance à la douleur. Je pense qu'il a des courbatures autant que les autres, mais il a une tolérance à la douleur qui font que le cerveau, il ne reçoit plus l'information de la douleur. Il a réussi à neutraliser l'information. Ouais. Et parce que je doute que... Enfin, je pense que musculairement, il doit être fracassé après, comme tout le monde. Hein. Mais c'est juste que le cerveau ne reçoit plus l'information comme quoi il a mal. Tu vois, il a fait un peu un reset de ça. Et c'est vrai qu'à mon avis... Et puis non, mais après, c'est l'habitude aussi, hein. Je pense que, comme il le dit, l'habitude, il se connaît. Et voilà. Mais après, c'est pas mauvais en soi de trottiner derrière, d'éliminer un peu les toxines. Alors nous, on parle ici souvent de faire des sports portés pour éviter les traumas. Mais remettre le corps en route, pas le mettre complètement sur off, c'est une bonne idée. Ouais.
Toi, après un marathon, tu fais un décrassage, Johan ?
Non. Après un marathon,
il fait un crassage.
J'ai trop mal aux jambes. Ouais.
J'arrête.
Non, et puis tu as tout le temps des sollicitations et tout. Là t'as plus envie de courir
ouais. Bon, reprenons le fil de l'année de casquette verte. Donc il y a l'éco-trail qui se passe, 8e, 80 km, ce qui est un bon résultat parce que c'est une course
C'était décevant pour moi.
Ah, pour toi oui, mais bon, c'est quand même une course
avec un métatarse en moins.
Ouais. T'étais pas content du coup.
Moi j'étais pas content parce que c'est à la maison. C'est quand même un des rares trails qui se passe chez moi à Paris. On arrive sur la Tour Eiffel et donc j'arrive avec. J'aurais préféré être plus proche du top 5 ou du podium une fois là-bas. Donc là c'était pas possible cette année. C'est pas grave.
Tu repars sur Istria en Croatie au mois d'avril, 100 miles. Là tu fais 7e au scratch, 5e homme. Donc là t'es hyper satisfait, 160
toujours points. Blessé
là, toujours,
déçu
mais
aussi. Déçu aussi. Là je cherchais plutôt pareil un podium. Et je termine, je pense, à une heure et demie d'un podium, ce qui n'est pas énorme sur un ultra, mais c'était pas j'étais pas dans les meilleures conditions en ce début d'année pour pouvoir performer. Après, on peut pas être à 100% toute l'année.
C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je comprends ta philosophie de courir au quotidien, d'être motivé par les challenges, etc. Mais est-ce que toi, parce que ça fait 3 ans que tu fais de la course intensive, et c'est la question qui revient souvent parce que tu es un personnage dont on parle beaucoup dans le milieu du trail, et nous, on nous dit souvent, casquette verte, un jour ça finira par lâcher, quoi. L'usure arrivera et ça se terminera. Donc c'est quelque chose que tu as déjà dû entendre parce qu'on a déjà dû te faire la réflexion, j'imagine.
C'est au quotidien, ça.
Sur les réseaux, tu as une communauté qui grandit, donc forcément, plus ça grandit, plus les critiques arrivent aussi. Est-ce que tu as ça au fond de ta tête ou est-ce que tu te dis non, moi je continue ma passion, je la pratique comme je veux et je change rien quoi.
Non mais ça c'est un pronostic avec une cote qui est tellement basse, c'est tellement facile de dire ça, mais bien sûr que ça va lâcher, le mec il court 2 ou 3 heures par jour les mecs, non mais dire ça c'est pas être devant, c'est
juste fatalité, le gars, normal. Il sait que ça arrivera quoi.
Je sais que ça va arriver et je dis pas que j'ai de la chance parce que je considère que la chance n'existe pas et que j'ai préparé mon corps à ça, mais je sais que ça va arriver, que ça va forcément péter un moment ou un autre et c'est pas grave, j'aurais vécu intensément et c'est pas grave si ça pète et que ça m'empêche de continuer à ce niveau-là. Non, j'ai déjà fait plus que ce que je voulais faire.
La question qui suit, c'est ok, tu cours tous les jours, ça à la rigueur, mais est-ce que tu te dis pas, toi, dans ma marge de progression, si je cible vraiment 2-3 objectifs très important, UTMB, Diagonale des Fous, des trucs très costauds, je peux améliorer mon classement et justement atteindre un niveau encore supérieur.
J'en suis persuadé que c'est possible. Grosso modo, en fait, je vais donner une grande image, mais je pense que je suis à 98% de ce que mon corps peut faire, ouais. Mais que pour aller chercher les deux autres pourcents qui restent, pour pouvoir aller tout devant, il y a tellement de sacrifices en plus à faire, que ce soit sur l'alimentation, la rigueur d'entraînement, le fait de se faire accompagner, etc. Moi, ces 2%-là, je ne suis pas prêt à les faire. Je préfère être à 98, à m'éclater et à ne pas avoir ce que je pourrais potentiellement avoir en me tordant la life. Mais
tu ne penses pas que rien que réduire les courses, ça peut t'aider à performer encore plus sur
Moi, ce que j'aime, ce n'est pas les réduire, justement, ouais. C'est de les enchaîner.
On n'arrive pas à le faire changer d'avis.
Non, tu y arriveras.
Il est têtu, le bonhomme.
Non, mais Johan, quel est ton avis à toi? Ton avis d'athlète de haut niveau, comment tu vois ça?
C'est des profils atypiques, c'est ça qui est bien dans cette émission, ouais. C'est qu'on reçoit tout le monde. On avait reçu Marjolaine Nicolas, qui était pareil, quelqu'un voilà, qui faisait que du footing, qui aimait juste partir, courir, faire du footing.
Que du footing à 16 à l'heure, ouais.
Et elle fait 2:33 au marathon, ouais. Mais elle se voit pas aller dans un club, faire des séances de fractionné sur la piste, ça lui plaît pas, et elle se plaît dans son truc à elle, c'est son truc, et elle est performante là-dedans, et lui c'est pareil, il y a des gens comme ça, tout le monde peut pas rentrer dans les mêmes cases, il y a des gens qui sont à part, qui ont pas besoin de trucs, qui veulent pas progresser de la même façon que tout le monde, et qui font les choses par passion et de façon différente. Mais tu pourras pas le changer, et c'est très bien comme ça, hein. Il faut qu'il garde ce peps et cette énergie de faire tout le temps des nouveaux défis pour se dépasser. Alors, et puis c'est comme ça qu'il avance, quoi.
D'un autre côté, ce qui est sympa dans ce que tu fais, Alex, c'est qu'il y a à la fois les énormes trails connus dans le monde entier où là il y a une densité exceptionnelle et tout, et puis il y a des courses un peu plus petites où là tu t'éclates, où là tout de suite tu es devant, etc. Est-ce que c'est une considération différente? Est-ce que tu prends autant de plaisir dans les deux, tu vois, quand tu cours seul devant, que tu pars, que tu es le favori de la course parce que tu viens souvent et tu gagnes, et dans une Diag ou un UTMB où là il y a toutes les stars de la discipline, tu pars, il y a une énorme médiatisation, est-ce que c'est le même plaisir, est-ce que c'est différent, comment tu vois ça toi?
Pour moi c'est 100% le même plaisir, c'est-à-dire que c'est exactement comme si tu pars faire un foot avec des potes, tu pars faire un five et il y a une équipe en face, que ça soit des inconnus ou que ça soit Kylian Mbappé, si tu mets un petit pont, tu mets un petit pont, quoi. Ça va être dur de le mettre, mais d'un côté ça va être plus dur de le mettre, mais c'est le même plaisir des deux côtés. Le seul truc qui peut changer en fait entre les deux, c'est que sur les grosses structures parfois c'est un peu déshumanisé, vs les plus petites structures où tu vas pouvoir réellement papoter, être à la brasserie après à la fin, là où l'autre t'es plus Alexandre mais tu es casquette verte, et parfois ça enlève un tout petit peu de goût, mais y a des très très bons aspects aussi sur les énormes structures, que ce soit l'UTMB ou la Diag, c'est les deux qu'on cite à chaque fois, mais c'est devenu tellement des finales de la Coupe du Monde, ces trucs là
Quel est ton rapport avec les stars de la discipline, parce que tu les croises sur l'UTMB, sur la Diag, toi t'as une sacrée notoriété, donc on te connaît, de toute façon c'est un petit milieu aussi, donc tout le monde se connaît un petit peu, est-ce que il y en a avec qui tu sympathises, est-ce qu'ils comprennent ta philosophie, comment ça se passe?
C'est exactement comme c'est des gens comme tout le monde, c'est-à-dire donc c'est exactement comme la population globale. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Il y en a avec qui j'ai des affinités, il y en a d'autres avec qui j'ai pas d'affinités. Mais ça se passe plutôt bien parce qu'on est quand même dans un sport où on se tire pas des balles et on est toujours à la cool entre nous et super bienveillant entre nous. Je pense qu'il y en a la plupart qui ils savent que je fais, etc. Ils voient ça d'un œil étonné, la plupart, ça juge pas tellement. Et le seul truc, c'est il y a toujours par contre ce rapport de lui c'est le petit parisien, et là il y en a quand même beaucoup qui sont pas ambiance parisien ville, etc. Donc il y a un peu cet aspect où on n'est pas snobé mais presque, parce que c'est quoi ce gars de la ville, quoi.
C'est assez mal façon... perçu, quoi.
Je sais pas si c'est mal perçu, mais c'est les Parisiens, on n'est pas aimés, hein, de toute façon. Dans tout, quoi. Après, on le vaut bien. C'est parce que on est arrogant. On le mérite aussi un petit peu. Mais oui, il y a ce rapport en fait, coureur des villes, coureur des montagnes, où il faut avoir fait ses preuves à la montagne pour pouvoir être un peu accepté là-dedans. Et ça se comprend aussi, parce que moi, les mecs de la montagne, je les mets dans le métro, je vais me foutre de leur gueule. clairement, le mec, il faut qu'il fasse un changement à Châtelet-Léal. allez, mon gars, quoi. Je vais l'amener là-bas, il faut qu'il me fasse ses preuves, et après, je le considérerai peut-être comme un citadin, mais ça marche dans les deux sens.
Ouais. T'arrives à prendre le métro, toi, Johan, ou pas?
Je ne roule qu'en trottinette électrique.
Tu peux rouler en trottinette électrique dans le métro.
Et pourquoi pas. Allons-y sur les grosses courses de l'année. L'UTMB qui a eu lieu le 26 août. 18e place, 21h35. Commenté à ce moment-là, c'est...
22h et des brouettes.
22h, pardon. Ouais. C'est ton objectif de l'année, ça en fait partie,
mon objectif c'était la diagonale, qui était un petit peu après. L'UTMB, je voulais pas le louper particulièrement, mais c'était pas...
Plaisir d'y être ?
Par plaisir de vivre un événement dingue, un événement totalement fou, et par plaisir de courir avec effectivement des mecs que j'ai en poster dans ma chambre, quoi.
Ouais.
Et donc ça c'est un sacré kiff. Et ça se passe...
Jordette, notamment.
Kylian, Zach Miller, Jim Wemsley, Mathieu Blanchard, Pau Capel, enfin bon, il y a tout le monde là-dessus. Il manquait quasiment que François cette année, Daen. Mais donc, événement de dingue. En plus, l'événement est très très bien organisé. On a eu une météo totalement parfaite et donc on a eu un parcours complet. Et ça s'est... Sur 23 heures, un peu moins de 23 heures, il y a eu 21 heures où j'étais très bien, il y a eu que 2 heures où j'étais pas bien. Et faire un UTMB en moins de 23 heures, je sais que ça a une valeur et que c'est considéré. Que là, je termine 18e, mais il y a plein d'autres années où c'était plutôt top 10 et je me rapprocherai du top 5 avec un temps comme ça. Donc je me dis, ok, bon, bah, t'as atteint ce niveau-là et j'ai pas eu l'impression de me pousser plus que ça pendant la course.
Un top 10 sur une course mythique comme ça, c'est un objectif, un vrai.
Sur la diagonale. Moi, clairement, c'est le jour où je fais top 10 sur la diag, j'arrête et je me mets au bokeh, quoi.
Donc, en termes de prestige, tu mets la diag devant l'UTMB ?
C'est compliqué parce que médiatiquement parlant, l'UTMB est incroyable. C'est vraiment la Coupe du Monde de football, mais la finale de la Coupe du Monde, mais la diagonale, elle a un goût, une saveur exactement, mais totalement incroyable. C'est on traverse une île.
C'est plus mythique peut-être. C'est plus.
Ah, les deux sont mythiques, mais je sais pas comment dire. Mais cette diagonale, il y a.
C'est un environnement, une ambiance. Tu dis, tu traverses l'île. Enfin,
t'es dans Jurassic Park.
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'es en train de courir dans Jurassic Park. Les bâtons sont interdits. C'est un petit peu quand même à l'arrache. Il fait chaud, il fait froid, il y a des racines à peu près tous les centimètres. Il y a une ambiance sur cette île. Eux, c'est pour les Réunionnais, c'est quand même the événement sportif.
Ouais.
Et quand tu te retrouves là-dedans, et pareil, sur l'île de la Réunion, je me retrouve à faire les 7 premiers kilomètres en tête.
Oui, parce que ça, c'est ton délire, on l'a pas encore dit, mais t'aimes bien partir à fond pour être en tête au début, quoi.
Mais en fait, c'est trop marrant. On part pour faire des 100 miles, donc des 170 km avec 10 000 de dénivelé. On part pour 25 heures, et pourtant, je sais pas, sur l'UTMB, je pars à 3,20 quoi, au premier kill. Et c'est pareil sur la diag et
ça t'a valu une petite réflexion de Kylian Jornet d'ailleurs quand il t'a
exactement il m'a dit que j'étais parti un petit peu vite.
Il connaissait pas le bonhomme ou quoi.
Mais si, en plus, bien sûr que si, il t'appelait le Parisien, je crois.
Exactement. Et non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour quitter généralement les départs, il y a toujours du bitume. Moi, vous me mettez du bitume, c'est mon terrain, les mecs.
C'est parti. Ça m'a demandé boîte de Vincennes.
Il manque juste un rat et puis la Seine, et puis là,
c'est parfait.
Oui,
bon, on va demander à ce que Chamonix, Saint-Denis-de-la-Réunion fassent un partenariat avec la maire de Paris. A priori, ils savent faire.
C'est ça, pourquoi pas. Parlons de ta diagonale des fous. Donc, on l'a dit, ton objectif de l'année, juste préciser que la course a eu lieu le 20 octobre. 12 jours avant, tu fais une chute à l'entraînement, vraiment chez toi, une chute bête d'ailleurs, et tu te casses une côte. Donc t'attaques la diagonale des fous avec une côte cassée, c'est ça ?
Bah, de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est si je voulais, j'aurais pu rester chez moi, effectivement. Ça aurait été
blessure atroce parce que tu respires, t'as mal, tu dors, t'as mal. Ouais. C'est
et il y a rien à faire en fait. Et surtout, il y a
rien à faire. Il faut
se reposer. Mais bon.
Rester allongé. Ouais. Et non, en fait, la plus grosse crainte vis-à-vis de la côte cassée, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, je m'étais déjà cassé une côte d'ailleurs sur la diagonale l'année d'avant. Je sais que c'est douloureux, je sais par contre que je sais gérer cette douleur, mais le gros défaut, c'est que j'ai une crainte de tomber dessus. Et si on tombe sur une côte cassée, ça peut aller perforer un poumon.
Et
là, on rentre dans un autre délire.
Là, on rentre dans un délire
qui n'est pas bon.
Bien sûr. Mais et donc t'attaques, la douleur est très très vive le jour où t'attaques la diag. Ouais,
elle est vive, mais en fait j'arrive à considérer que de toute façon il va falloir vivre avec. Donc vu que je la considère et que je l'accepte, ce que tu disais tout à l'heure, Johan, c'est mon cerveau il reçoit pas l'information. Moi je pense qu'il reçoit l'information, mais qu'il la traite différemment. C'est-à-dire qu'il la traite pas comme un ennemi, mais il la traite comme il y a plein de gens qui disent que la douleur n'est qu'une information, mais globalement c'était ça. C'est-à-dire que c'est une information qui passe, exactement comme j'aurais bien aimé le goût d'une mangue en mangeant une mangue. Yang, bah là c'est pareil.
C'est comme un accompagnement, quoi. C'est quelque chose, il faut faire avec.
Il faut faire avec, et si tu veux le mieux vivre possible, tu as intérêt à considérer ça pas comme quelque chose de pénalisant.
Mais ça va être intéressant dans la séance, Johan, mais toi, tu en es l'exemple parfait, parce que vous êtes toujours au point de rupture, les athlètes de très haut niveau. Enfin, la douleur quotidienne, le petit point qui se réveille à l'aine, je sais pas, à l'ischio, au genou, au tendon, enfin, c'est ton quotidien, ça aussi,
c'est
finalement.
C'est le quotidien, ouais.
Bah ouais. Un petit truc qui se réveille, je sais pas.
Ouais. Après, il faut, voilà, il faut, on en parlera tout à l'heure, mais il y a la sensation, il y a la sensation à reconnaître, à savoir si c'est juste une douleur passagère ou une douleur persistante qui risque de te gêner un peu plus et qui est vraiment le fruit d'un truc qui pourrait être potentiellement grave ou t'embêter pendant plusieurs semaines, quoi.
Et en plus, selon l'envergure de l'événement et ce que ça représente pour toi, moi je sais que je somatise des douleurs. C'est-à-dire que ça m'est arrivé sur l'UTMB il y a 2 ans, la veille du départ et le matin du départ, j'avais un mal de cheville que je ne comprenais pas parce que je ne m'étais pas fait mal particulièrement, mais au point où j'avais du mal à marcher.
Psychologique.
Un quart d'heure avant le départ, plus rien. Ça avait disparu.
Incroyable.
Et donc c'était purement psychologique, c'était somatisé, quoi. Et alors que j'avais vraiment mal à cette fille pendant 24 heures.
Ah mais ouais, c'est fou. Pour faire le bilan un peu de ton année 2022, c'est quoi le résultat qui te rend le plus fier?
Le coup,
la Manen peut-être. La victoire
le dernier
en Suède,
c'est quand même pas mal parce que avoir le record en Suède,
etc. Record de l'épreuve, 5,33 de moyenne au kilo. Donc
exactement,
incroyable.
Et là-bas, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que en France, on aime beaucoup blablater sur les gens, etc. Et que les gens différents, on a un peu tendance à les mettre dans une case et parfois un peu à les montrer du doigt. Là où VS, je me suis rendu compte qu'à l'étranger, je suis une légende, mais là-bas, ils ont commencé à me donner un surnom. Ils m'appellent The Ghost parce que je passe tellement vite dans les ravitaillements qu'ils savent pas si je suis là ou pas là, quoi.
Ouais.
Et donc c'est drôle parce que d'être mis comme ça en exergue par une population pas au fin fond de la Suède mais quand même bien dans un village de pêcheurs en Suède, c'est quand même un peu particulier. Je sais que je vais y retourner l'année prochaine et je vais être accueilli pas en héros mais
c'est sûr.
Ce jeune homme a fait quelque chose ici il y a bien longtemps, et donc il y a toute une légende et une ambiance.
Juste préciser que t'es accueilli par des chevaliers sur des chevaux, c'est un peu des vikings, on vous court après, enfin, c'est un sacré délire ça, la Manen. Et c'est 165 km, donc à 5,33 de moyenne au kilo. Et le dénivelé, tu l'as de tête ou quoi?
Et en fait c'est marrant parce qu'il n'y a quasiment rien de dénivelé. En fait il y a 100 bornes de plat parce que tu es au bord de la mer, puis après sur les 60 derniers il y a 2000-2200 de dénivelé.
Pour t'achever, quoi.
Mais ce qui est très dur, c'est que donc c'est la Suède début novembre, donc il fait nuit. En fait, moi j'ai fait quasiment 100% de ma course de nuit, enfin 90%. Il fait froid. T'es au bord de la mer et là-bas, en fait, ils se disent il faut rendre le truc un peu plus dur. Donc ils vont mettre déjà très peu de balisage. Ils vont te faire passer sur des sentiers, parfois très souvent en fait hors sentier, au bord de mer, sur des champs de cailloux où il y a tu cours sur des champs de cailloux. C'est pas fait pour courir sur des champs de cailloux, donc ça va bien te casser ta vitesse. Et ils essayent de rendre ça plus dur parce qu'il n'y a que 5 ravitaillements dans mon souvenir, ce qui est très peu, hein, là où un UTMB on va plutôt être
entre
10 km. Et 12, ouais. Donc on va avoir le premier ravitaillement, tu pars, il est 24 km plus loin, après le deuxième il est au kilomètre 56, le troisième il est au kilomètre 80, et en plus ils veulent rendre le truc plus dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
encore
bouffe quasiment sur les ravitos.
Ouais, non mais c'est... Ouais. Incroyable. T'imagines, t'as envie de faire ça ou pas, Johan?
Non.
Des questions importantes, parce qu'on le disait, tu as encore un métier à côté, donc tu bosses toujours chez JC Deco.
Exactement. Hein,
toujours, donc chef de projet, comme ça?
Totalement.
Voilà. Donc ça t'occupe évidemment tout au long de la journée. Lorsque tu prépares une course, tu poses des congés, donc il n'y a pas d'aménagement particulier pour toi. Tu es soutenu quand même par une ou deux marques, ouais?
Ouais, je suis soutenu par Suunto, côté montre. Et surtout, principalement, mon gros sponsor, moi, c'est Salomon. Et j'ai une relation qui se passe très très bien avec Salomon parce que je suis un électron libre, en fait, chez eux. Ils me laissent une totale liberté de ton et aux courses auxquelles je veux participer, etc. Et surtout, ils me filent le full équipement, plus que full équipement, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour les courses. Je bosse aussi pas mal avec eux sur la durabilité et sur les labos. Donc là, typiquement, en ce moment, je suis en train de tester la durabilité d'une chaussure qui va sortir dans plusieurs mois, parce qu'ils savent très bien que ouais. si la chaussure
que
faut les mettre 600
bornes,
si casquette verte fait tenir la chaussure,
si elle résiste, ouais, c'est ça. Bon.
Ouais, c'est drôle parce que tu vois, il y a des machines qui font, ils font tester les chaussures sur des machines, mais bah, là, d'une certaine manière, la machine, c'est moi, quoi.
Bah oui, bien sûr, en condition.
Donc ça se passe plutôt bien avec eux là-dessus, et ils m'aident aussi un peu financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont m'aider à hauteur de en gros 30-40% de ce que me coûte une saison en termes de budget. Donc, c'est royal au bar pour moi.
Ah, bien sûr, parce que ça coûte cher tous ces déplacements. Tu pars une semaine à La Réunion, tu pars dans les montagnes faire tes courses.
Mais c'est hors de prix. Hein. Tout le monde dit que la course à pied, c'est un sport qui est accessible. Quand on se met à faire de l'ultra et qu'on pratique beaucoup, on dit de plus en plus que sur les départs d'ultra, dans les sas de départ, c'est des sas de CSP+, citadins. Il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a un petit peu de ça.
T'aurais envie, toi, d'en faire ton métier ? De vivre de ça,
De l'aspect athlète, non, parce que comme les pronostics des gens le font, c'est-à-dire qu'il y a un moment ça va péter. Donc trop dangereux. Moi j'ai besoin de sécurité. Peut-être un jour bosser un peu plus dans ce milieu-là. Ce qui est sûr, c'est que je vais aider des organisations, soit en tant que bénévole, soit participer réellement à l'organisation d'événements. Ça me plaît pas mal. Après, être dans les marques, vendre des chaussures, c'est pas mon métier. Et je pense pas très bon à ça.
Mais tu peux trouver un rôle dans ce milieu-là, quoi. C'est ça que tu te dis, peut-être.
Je pense que ce sera possible, mais pas tout de suite. Peut-être qu'il y aura une petite phase tampon entre ma vie de participant à ma vie d'acteur du milieu.
On parlait de motivation quotidienne. Le fait que la notoriété explose sur les différents réseaux, c'est un coup de booster, ça aussi ? Ça fait du bien, ça réconforte.
Bon, pas tellement en fait,
non,
je m'en fous.
Je rien.
C'est atroce de dire ça, je m'en fous pas sous-entendu.
Non,
c'est
naze, mais
ça, j'étais pas là pour ça et je le suis pas. Je m'en amuse beaucoup et je considère ça comme un jeu à 2000%.
Ouais.
Et qu'en fait, on peut l'utiliser comme un jeu. Après, bon, j'ai un peu tendance à remettre 2-3 personnes à leur place dès que ça parle mal.
C'est ça la question, c'est comment tu vis les critiques, parce qu'il y en a forcément.
Ça me passe dessus, mais alors ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre, quoi. Ouais. Dans la réalité, mais j'ai un peu tendance à quand je vois que quelqu'un est dans l'erreur et dans le jugement, j'ai un peu tendance à lui faire comprendre. Donc parfois il y a des débats animés dans les réseaux sociaux.
Ah, j'ai vu ça. Il y a des pavés sur Strava notamment, des fois parfois.
Ouais. Les mecs ils se motivent.
Ah ouais. Ils sont chauds. Le gars, il est 23h, on est mercredi, le gars il se tape un pavé pour expliquer sa vision de la course à pied. Va dormir un peu.
Donc, en tout cas je vois que ça permet à plein de gens différents de s'exprimer. Y a des gens qui seront jamais d'accord avec moi et ça me dérange pas, hein, il faut tout pour faire un monde. Voyons encore vers quoi ça peut aller. Et je sais que ce truc-là, casquette verte, j'avais prévu de le détruire, un peu comme les Daft Punk ont détruit les Daft Punk.
Ah, mais toi, on connaît ton visage.
Et maintenant, on connaît mon visage. Et non, je pense que maintenant je vais le convertir, je vais l'utiliser dans quelques années pour aller vers quelque chose qui pourrait permettre à de l'associatif, à de l'humanitaire, du caritatif, me servir un petit peu de cette audience pour faire cette verve-là, parce que ça a un peu plus de sens que de simplement...
T'as pas envie de te faire un délire aventurier, traverser un continent en course à pied, ce genre de choses, c'est pas des idées
mais
que
j'ai un boulot, moi, j'ai pas le time.
Ouais, mais c'est ça la question, c'est à un moment, il y a une espèce de point de bascule à trouver, est-ce que
je
ça t'intéresse
pas tellement Ouais. Je suis pas tellement aventurier, sinon j'habiterais pas pareil. Hein.
Ouais, c'est sûr.
j'habiterais au fin fond d'un truc et j'adore la montagne. Mais l'ultra, en fait, c'est des aventures physiques, etc., humaines, mais c'est pas la vraie aventure au sens aventurier du terme.
C'est sûr.
Parce que, grosso modo, on a un ravito toutes les 15 bornes, toutes les 2 heures, il y a quelqu'un qui te sert de l'eau. Si tu veux un petit truc à manger, t'as ton petit truc à bouffer.
En fait, c'est pas si difficile, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça.
Bon, parlons à court terme, parlons de l'année 2023 qui arrive. Quels seront les principaux objectifs de casquette verte? Alors, on te verra où?
Je vais grosso modo faire quasiment toutes les mêmes courses que l'année dernière parce qu'elles m'ont beaucoup plu. Donc oui, je serai à l'UTMB parce que j'ai déjà gagné mon ticket. Oui, je serai à la Diagonale des Fous.
Okay.
Oui, je serai très certainement sur l'Ultra 01, sur l'UT4M. Donc que des courses quasiment que j'ai déjà fait, ça ne me dérange pas de les refaire. Les Cotterelles, je vais faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire que je vais faire l'éco trail, mais je vais aussi faire un truc juste avant l'éco trail, c'est-à-dire avant de prendre le départ, je vais peut-être faire en fait le chemin inverse, c'est-à-dire que
tu vas à la ligne de départ en courant déjà.
Je vais partir en fait de la Tour Eiffel et je vais aller à la ligne de départ en courant, donc je vais faire l'éco trail à l'envers avant de prendre le départ, parce que pourquoi pas quoi, c'est juste pour le fun, j'ai pas tellement de raisons à ça, il y a pas de raison par exemple écolo ou quoi, mais
t'as envie de faire ça donc tu vas le faire.
Ouais exactement, ça va me faire partir, ça m'occupera mon vendredi soir avant de prendre le retour.
Juste avant de passer à la séance, question toute bête, mais tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois comment? Est-ce que tu te projettes? Pas trop?
Je pense que je serai clairement plus à ce niveau d'implication dans ma pratique de l'ultra. Moi, je sais que d'ici 1-2 ans, ça va bifurquer dans une implication qui sera plutôt une implication dans la vie de famille.
Eh oui.
Quelque chose que j'ai très envie. Et
à des enfants un jour, monsieur.
Et effectivement, j'ai déjà commencé à regarder un peu comment ça fonctionne, les trucs avec les poussettes où tu peux courir un peu derrière, devant.
Ah oui, d'accord. Oui.
J'ai commencé à regarder forcément ça. Mais.
Il faudra bien couvrir le bébé, parce qu'au mois de novembre, au bois de Vincennes,
trois heures dehors.
Ah ouais, il va être bercé le machin. Non, donc il y a de ça, mais donc je pourrais pas m'impliquer autant que je m'implique maintenant, me barrer deux week-ends par mois ou voilà. Et donc je sais qu'il y a ça, et ça me dérange pas. Mais je pense que là où je m'étais dit tu arrêtes de courir, je pense que je vais pas arrêter de courir, je vais juste arrêter de courir devant et peut-être redécouvrir aussi les courses autrement avec le peloton, avec les gens, en profitant, en prenant le temps. Là sur la Saint-Élion, j'ai profité 58 secondes des ravitaillements en tout quoi. Je voulais m'arrêter maintenant, prendre une tranche de jambon.
Non donc, mais c'est bien, c'est assez clair dans ta tête et au moins tout est un peu prédéfini, donc tu sais où tu vas et tu profites au maximum de ce que tu es en train de vivre quoi. Donc on rappelle, tu finis l'année à plus de 10 000 km quand même, Johan, c'est fou. 10 000 km sur un an.
Je crois que la stat c'est 27 km par jour en moyenne.
C'est énorme.
Et sachant que j'ai pas du tout couru tous les jours, donc en fait ma sortie moyenne elle doit être à peu près à 30 bornes. Ouais. Et en termes de volume horaire, je crois qu'on est quasiment à 1000 heures, donc c'est cette année j'ai couru un mois et 10 jours. Sans m'arrêter.
Ouais, sans t'arrêter. Un mois et 10 jours de ton année,
c'est
à courir.
Horaire, ouais.
Tous les 11-12 jours, je cours un jour en entier.
Donc, sur une année complète d'un marathonien de haut niveau, ça représente combien de kilomètres à peu près, Johan?
8000. L'année dernière, j'étais beaucoup, à 7 et quelques. Ouais, 7-8000.
Il y a 3000 d'écart.
En 300 heures, parce qu'il faut quand même.
Les allures sont totalement différentes.
Ce qui change tout, et tu le disais tout à l'heure, Johan, c'est-à-dire que moi, je le fais d'une certaine manière. C'est pas des footings, mais presque. C'est-à-dire que je suis pas dans un niveau d'intensité qui est ultra traumatisant pour mon corps.
Voilà.
Donc, moi, c'est quand même. C'est à la cool maintenant. Quand je rentre et que je fais mes 2-3 heures le soir. On va pas dire que j'arrive et que les vêtements sont encore propres, mais on n'est pas loin.
Tu finis, t'as pas souffert en gros. La plupart du temps.
Le cardio est
pas monté, mais musculairement ça a travaillé.
Ça a travaillé, mais après ce qui est très bien, c'est que maintenant je peux courir 3 heures, me faire 40 bornes le soir et je prends ma douche 5 minutes et je pars en soirée et il s'est rien passé en fait.
Le corps s'habitue à tout, c'est quand même fou. Hein.
Formidable.
Exactement. Allez, passons à la séance.
RMC.
La séance.
Eh oui, alors Alex, en fait, c'est l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc tout ce que vous avez entendu, vous le félicitez, mais vous ne faites surtout pas tout ce que vous venez d'entendre. Ce n'est jamais conseillé, Maître Yodu, de courir blessé. Il faut toujours se méfier. Déjà, pour commencer, on peut dire qu'il faut différencier, Johan, la gêne et la douleur. C'est pas exactement pareil, quoi. Tu peux avoir une petite gêne et courir dessus. Quand il y a douleur, là, il y a un problème.
C'est ça, ouais. Il y a deux choses différentes, là. La douleur, déjà pour commencer, la douleur, ouais, c'est un peu la sensation qu'on connaît tous, tu vois, ça c'est l'accompagnement du sportif, de n'importe quel sport, c'est pas lié qu'au running, c'est à un moment donné quand tu fais un dépassement de soi, que tu pousses ton corps dans les retranchements, forcément t'as une douleur et elle est vraiment très subjective suivant les personnes. Il y en a qui, pour une ampoule, ils vont s'arrêter de courir et ils vont même arrêter la compétition et ça va être terrible. Et d'autres qui vont courir sur une fracture de fatigue, tu vois. Ça dépend vraiment de chaque personne. Parce que la douleur, en fait, c'est une information. Hein. C'est juste le corps, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu une alarme. C'est le corps qui t'envoie une info, comme quoi il y a une blessure, une agression, un truc. Et après, c'est à toi d'être capable d'analyser l'information pour faire la différence entre est-ce que c'est juste une courbature, une petite tension, une gêne, une fatigue musculaire, une crampe ou plus grave. Et dans ces cas-là, c'est vraiment à toi et c'est avec ton expérience généralement que tu arrives à mieux cerner les problèmes. Ouais.
C'est pour ça que c'est important d'essayer d'identifier ce qu'on a assez rapidement, en fait. Tu vois, le moment où c'est supportable et le moment où il faut consulter. Il y a quand même une marge entre les deux, quoi.
Il faut évaluer un peu le truc. Donc tu te dis, ouais, d'où vient ma douleur? Où est-ce qu'elle se localise? Est-ce que c'est la, donc le mollet, le, ou plutôt l'os, le, tu vois, c'est le tendon, quelque chose comme ça, tu sais pas. Ça fait combien de temps qu'elle est là? L'intensité, est-ce que quand je me réveille le matin, elle est plus là que la veille? Est-ce qu'elle se réveille quand je cours? Est-ce qu'elle s'enlève si je glace? Est-ce qu'elle est chronique? Est-ce que ça fait plusieurs semaines qu'elle est là? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et en fonction de ça, bah, prendre les bonnes décisions, à savoir adapter l'entraînement, faire du repos ou pas. Parce que des fois, si c'est juste une... Tu vois, moi, typiquement, il y a 48 heures, j'avais super mal aux fessiers parce que j'avais fait beaucoup de renforcement des fessiers. Je me suis dit, putain, mais je me suis pincé un truc, c'est pas possible, il y a un nerf de pincé parce que j'avais vraiment super mal. J'ai massé balle de tennis, j'ai mis du chaud, et ben le lendemain j'avais plus rien. Alors que dans ma tête, je me suis dit putain, peut-être que je me suis fait un truc plus grave.
Et ça pouvait pas être lié au Girondins de Bordeaux parce que c'est la trêve. Donc non,
mais
oui, c'était pas ça. À quel moment tu. Parce que toi, t'as l'habitude, Johan, c'est hyper intéressant parce que tu le communiques sur tes réseaux, c'est que tu as une graduation de tes douleurs. C'est-à-dire que quand tu reviens de blessure, tu vas marquer 1 sur 10, 2 sur 10, etc. À quel moment tu consultes? À quel moment tu te dis alerte rouge, là je vais aller voir un spécialiste quand même parce que ça commence à m'inquiéter.
Moi, ma problématique, c'est que courir, c'est mon métier. Donc, c'est-à-dire que dès que j'ai des petits signaux de douleur, grosso modo, c'est tu vas voir un kiné, tu vas voir un médecin. Dès qu'il y a un truc que j'estime un peu une douleur anormale, tu vois, quand tu sens que c'est pas seulement lié à l'effort, c'est pas simplement une courbature, une crampe, c'est une douleur un peu anormale, c'est genre t'as l'impression que c'est une tendinite ou c'est un petit os qui a cassé ou c'est une inflammation. Et dans ces cas-là, je consulte assez vite. Et ouais, moi je gradue. Alors voilà, le problème c'est que la graduation en fonction, comme je le disais tout à l'heure, il y en a un pour une ampoule, il va graduer ça à 5 sur.
Après, oui, c'est ampoules, ton ressenti à toi, bien sûr.
Ouais, c'est ton ressenti à toi. Après, les ampoules, c'est quand même douloureux. Hein. C'est quand même super chiant. Hein.
Ah oui.
Mais ouais, c'est ton ressenti. Mais au-delà d'une douleur que vous avez le matin, si chaque matin vous vous réveillez que la douleur, elle ne s'est pas atténuée par rapport à la veille, là, il faut commencer à consulter, à réduire l'entraînement ou à réduire la charge d'entraînement. Peut-être pas l'entraînement, des fois, juste réduire la quantité, faire peut-être pas 15 km, mais plutôt 8. Et puis ça, c'est une douleur. Quand vous avez la douleur qui dépasse 4 sur 10, il faut consulter, ouais.
D'accord. Deux questions avant de passer au bon plan matos. Qu'est-ce que tu penses des anti-inflammatoires? Est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce que c'est rassurant?
Ça, c'est plutôt mauvais. Hein.
Est-ce qu'il faut se méfier justement et l'éviter à tout prix? Comment tu vois ça?
Moi, là, tu vois, dans mon cas personnel, là, je suis depuis 3 mois, je suis un protocole de rééducation par rapport à ma douleur au genou où je m'étais fait un œdème osseux sur la rotule avec une tendinite patellaire, donc du tendon sous le genou. Et moi, j'ai refusé de refaire un peu comme j'avais fait cet été pour participer au championnat d'Europe, des injections de mésothérapie et d'infiltration pour cacher la douleur. Là, j'ai décidé de soigner par le naturel, c'est-à-dire que là, je fais que du renfo, je fais des soins, je prends zéro anti-inflammatoire, je prends un peu de glace et tout ça. Mais alors c'est plus long, c'est des protocoles qui sont plus longs.
Mais il n'y a rien de masqué, quoi. Au moins,
mais il
n'y
a rien de masqué sur le long terme. Je sais que là, je suis à deux doigts de m'en débarrasser. Je sais qu'il faut que je sois encore prudent pendant une quinzaine de jours. Et après, je m'en suis débarrassé et je sais que ça ne reviendra pas. Le problème, quand tu masques, c'est que les anti-inflammatoires, on sait que ce n'est pas bon pour l'estomac, on sait que ce n'est pas bon pour l'intestin, que sur le long terme, se gaver d'anti-inflammatoires, c'est vraiment mauvais pour le corps. Donc moi, j'ai pris l'option de prendre mon temps et de me soigner pour vraiment être soigné et pas caché. Parce que cacher une douleur, quelque part, elle va forcément revenir un jour ou l'autre. Hein.
Et juste d'un mot, oui, les douleurs en course, comment ça se gère? Pareil, tu sens une ampoule qui monte, une crampe qui arrive. Serres les dents et puis bameau, quoi.
Ça dépend si c'est le gros objectif de la saison. Il faut y aller. Hein. On serre les dents. Sur marathon, on a une douleur, on sait qu'on ne va pas en refaire un avant 6 mois, donc faut y aller. Si c'est dans l'entraînement, si vous êtes à 15 jours de votre objectif, que vous sentez le muscle qui se tend, ralentissez, soignez-vous. Et voilà. Parce que le problème, c'est que quand on court sur une douleur, il y a de fortes chances pour qu'elle elle s'accentue. Quoi.
C'est sûr. Et puis sinon, en avant Guingamp. Hein, voilà.
Sinon, en avant Guingamp, on lâche tout, on n'y pense plus. Et...
<C'est ça. rire> Exactement. Allez, justement, on passe au bon plan matos.
RMC.
Le bon plan matos.
Bon, évidemment, gestion de la douleur. J'ai laissé casquette verte de côté parce que lui,
pour en prendre un autre.
On voulait pas l'entendre. On veut bien entendre Dorian Louvet qui est avec nous, un autre ami d'RMC Running, Dorian de Koh-Lanta, évidemment. Salut Dorian.
Salut les gars, ça va?
Ça va et toi?
Sacrée équipe ce matin.
Ah bah sacrée équipe. Première question, est-ce que t'en as marre de cette musique?
Non, ça me rappelle des souvenirs. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Merci.
Ah quand même.
Rappelé.
Ah bah écoute, super. Écoute,
en vrai, je m'en c'est mon réveil.
Ah ouais, c'est ça. Le gars, c'est sa sonnerie de portable.
Le mec décroche jamais.
Tellement obsédé. Dorian, on est content que tu sois là. Tu connais Alex Cascadette d'ailleurs. Hein. Vous vous êtes vu récemment,
ouais,
je crois.
Ouais, bien sûr. Qui ne le connaît pas, ça devient une légende. Avec, bien sûr. J'entendais tout à l'heure 10 000 km à l'année, c'est juste incroyable.
C'est
marrant, j'ai fait le calcul. Tu sais qu'en fait, j'ai vu ça sur Strava et j'ai fait le calcul justement la semaine dernière en me disant que ça faisait 27 bornes par jour et je me suis dit, c'est incroyable.
Sachant qu'il ne court pas tous les jours, tu te rends compte? C'est ça qui est fou. Ouais, vous êtes vu où, Alex, alors?
Dans mon souvenir, on s'est croisé sur la Diag. Tu m'as attrapé,
ouais,
j'étais en larmes dans mon souvenir, tu m'as doublé. J'étais en train de chialer de douleur. Et après, moi, je t'ai redoublé, mais je ne me rappelle pas t'avoir doublé.
C'est marrant cette histoire. Tu l'as croisé, tu étais en train de pleurer de douleur. Quoi. Ouais, tu pleures de douleur, ça arrive.
Non, en fait, je me suis explosé la gueule dans la Diag.
Ah oui, c'est vrai,
au bout du 50e, entre 50 et 60e kilomètre, je suis tombé dans un ravin. J'ai fait un tout droit dans un ravin et donc je me suis mis à marcher, c'est-à-dire que j'étais top 20, top 30, je suis passé 400e, j'ai perdu 7 heures en marchant et Dorian m'a doublé.
Ah, tu t'en rappelles, Dorian?
Ouais, je me souviens. Oh, voilà. Je me souviens, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Mais son histoire. J'ai dit,
c'est ça.
Je m'attendais pas à le voir ici.
Exactement. Bah écoute, en tout cas.
Donc effectivement, on s'est croisés. C'est vrai qu'on devait en plus se faire un petit run du côté de Montmartre et préparation diagonale des fous et au final on n'a pas réussi à se capter parce que emploi du temps compliqué de chaque côté. Effectivement, la seule fois où je l'ai croisé officiellement, c'était sur la Diagonale des Fous. C'est un bel endroit pour se croiser quand même.
Ah oui, ça c'est sûr. Et si vous faites un truc à Montmartre avec les marches, allez-y, rejoignez. Nous attendez pas avec Johan, commencez sans nous et puis vous nous raconterez. Bon, Dorian, on t'invite parce qu'évidemment, t'es un ami d'RMC Running, mais on t'invite surtout parce que tu sors un livre. Voilà, ton livre est sorti. S'appelle Mon Coach Running, un livre coécrit avec Julien Todeschini, il est diététicien nutritionniste et vous vouliez un peu, entre guillemets, vulgariser la course à pied, revenir sur tous les aspects importants. Tous les aspects sont traités d'ailleurs et ça s'adresse du débutant au coureur confirmé, c'est ça qui est hyper sympa. Il y a des plans d'entraînement, il y a des menus diététiques, il y a vraiment tout, hein. C'est hyper complet, moi je me suis régalé à lire ça. Est-ce que tu veux nous présenter ton livre comme ça en quelques mots?
Effectivement, comme tu le dis, c'est complet. Après moi je révolutionne pas la course à pied, c'est vraiment le running vu par moi et mon expérience, on va dire. Donc effectivement, dans un premier temps, ça va vraiment être se motiver pour aller courir, les bienfaits de la course à pied, ce qui nous pousse tous les jours à aller courir et à nous dire, une fois qu'on est dans la douche, c'était quand même bien d'y être allé. C'est vrai qu'il faut des fois réussir à se motiver, donc normalement je donne 2-3 tips pour réussir. Après, ça va vraiment être sur du débutant, les premiers pas, comment s'équiper, etc. Et au fur et à mesure du livre, comment progresser, les fractionner, des plans d'entraînement, courir jusqu'à 10 km, après progresser, performer, on va dire, sur semi-marathon, sur marathon. Il y a aussi du renforcement musculaire et tout un plan nutrition aussi, qui a été fait justement par Julien, qui est nutritionniste. Le but, c'est que dans ce livre, en fait, quand tu veux vraiment te mettre à courir, tu puisses avoir tous les tips pour commencer la course à pied. Alors, ça ne s'adresse pas forcément aux athlètes comme Johan, même si on ne sait jamais, il peut apprendre des choses, mais je ne suis pas sûr. Mais effectivement, pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la course à pied, il y aura vraiment un maximum d'informations.
Qu'est-ce qui t'a chauffé au départ? C'est ta passion? Tu as voulu la concrétiser par un livre? C'est ça l'histoire?
Ouais, alors pour être totalement transparent, en fait, c'est vrai que moi, c'est la maison d'édition qui a pris contact avec mon agent. C'est qui voulait que j'écrive ce livre. Au début, ça me paraissait un peu fou. Je me suis dit, écrire un livre, c'est quand même assez balèze, quoi. C'est quelque chose de beau. Je m'en sentais pas forcément capable. Après, j'ai un peu réfléchi. Je me suis rapproché d'un pote à moi, donc qui s'appelle Julien, qu'on avait déjà écrit deux, qui m'a dit, je te jure, on peut faire un truc sympa. Et de là, on a commencé à écrire, à mettre des idées sur papier, et puis on a dit, ok, on se lance. Et pendant un an, ça a été énormément d'échanges avec la maison d'édition. Et c'est vrai que le rendu est... Enfin voilà, j'en suis très content.
Ouais,
et
il est beau.
Je suis personne pour juger le fond, puisque c'est plus ou moins moi qui l'ai écrit. Mais juste la forme, c'est vraiment la maison d'édition qui a travaillé dessus, avec des couleurs que je voulais, shooting photo, différentes photos de mes différentes expériences. Et je le trouve vraiment très joli. Après, c'est vrai qu'en plus, Denis qui fait la préface, c'était un
Denis
plus.
Brogniard,
Ouais,
c'est vrai.
Voilà, et c'est vraiment beau ce qu'il a écrit, donc je suis vraiment très très content. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Je donnerai ton CV à LP pour savoir si
et pourquoi pas. Alors, si je peux me permettre, Dorian, nous on a reçu pas mal de personnes qui avaient écrit des ouvrages sur la course à pied. Il y a la Bible du running qui est très complète, évidemment. On a reçu l'auteur. Ce que j'aime bien en fait dans le tien, c'est que c'est le mix en fait entre le scientifique, le nutritionniste et toi, ton ressenti de coureur confirmé. Tu vois, c'est ça qui est sympa en fait, c'est de mélanger tout ça et d'obtenir ce bouquin finalement.
Et ce qui est drôle, c'est que même Julien, quand il a apporté quelques éléments un peu plus technique, on va dire. En fait, même moi, j'apprenais certaines choses, quoi. C'était vraiment drôle. Et alors que moi, juste nous, dans la course à pied, on va le vulgariser. Et donc, en fait, moi, j'apportais plus mon expérience terrain, comment je vois les choses, comment moi aujourd'hui, je coach mes athlètes qui sont pour la plupart débutants, qui s'entraînent 2-3 fois par semaine, qui n'ont jamais fait de semi-marathon et qui se disent est-ce que un jour je vais réussir. Donc, j'apportais vraiment cette expérience-là. Alors que lui, c'était beaucoup plus cérébral, mais des choses super intéressantes, en fait. Donc, il y a vraiment ce mix entre j'apprends sur la théorie et sur la pratique, qui fait que c'est intéressant. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dénigrer les autres livres. Je pense que chacun a sa façon d'entraîner, chacun voit la course à pied différemment, même si, bon, on est d'accord qu'il y a quand même une base qui est là et qu'il faut rappeler, quoi.
Alors, méfie-toi, Alex va sortir comment courir 10 000 km par an.
Mais donc, non, mais, sera mais, pas non, mais cible, Alex, je suis persuadé, on en reparlera, mais je suis persuadé qu'Alexandre, il va être contacté, si ce n'est déjà fait, pour sortir un livre, et qu'un jour, s'il se motive, il écrira un livre où il expliquera sa vision du trail et pourquoi il fait ça, et ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, sur quoi il faut faire attention, et je suis sûr que ça va cartonner. Donc moi je suis persuadé que dans quelques années, peut-être même quelques mois, on verra, tu t'inviteras Alexandre, mais ça sera pour parler de son livre.
Que le projet est dans les tuyaux. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est,
très bon pronostic, dis-nous
tout.
Très bon pronostic.
le projet est là,
j'ai déjà commencé à écrire le truc, mais en fait j'ai pas le temps d'écrire, donc je pense qu'il va falloir que j'arrête de courir un petit peu pour écrire un peu plus.
Tu peux pas courir avec Siri dans les oreilles, tu peux pas dicter à ton
tu mets des notes.
J'ai déjà écrit une partie comme ça, tout le plan je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit en courant. C'est dans les cartons, parce que
bien sûr.
Moi j'écrivais mon aventure avant sur un blog pour le raconter à mes grands-parents. Ça a commencé comme ça, Casquette Verte, et donc j'ai un rapport à l'écriture qui est au récit, qui va forcément déboucher sur quelque chose dans les années à venir.
C'est vrai qu'Alexandre, voilà, il a une personnalité. Il y en a pas deux comme lui, je pense. Donc forcément, il aura des choses à raconter. Non, mais voilà, c'est vrai que ça, je pense que ça peut marcher. Surtout que voilà, le trail à Paris, on a l'impression que c'est pas possible. Bon, bah voilà, lui il casse un petit peu les codes.
Mais
je pense que Johan aussi pourra nous faire un beau livre sur sa carrière, j'espère.
Tu vois, Johan, je t'aime beaucoup, mais nous on va se contenter des podcasts, hein, si tu le veux bien. Ça nous va bien, c'est un épisode par semaine, on rigole, on fait des blagues et puis ça suffit. Qu'est-ce que t'en penses, Yodu?
C'est très bien, très bien.
Voilà. Bah, Dorian, donne-nous tes nouvelles sportives, t'en es où? Quels seront les objectifs 2023? Tu pars sur quoi là alors?
Et alors du coup c'est vrai que là je suis parti dans des petits défis, un peu des chantiers là à la Diagonale des Fous, un peu sur un coup de tête.
Il y a des images de la Diagonale des Fous magnifique.
Ah, l'image où il dort par terre là.
Ouais, bah c'était
dur.
Franchement, c'est dur, hein, ces trucs là.
Ah oui, c'est dur.
Oh là là, les chantiers, toi, c'est incroyable. Mais c'est des expériences humaines assez incroyables. Je les prends plus comme des défis sportifs, dépassement de soi, plus que à titre perso de la performance pure et dure, parce que j'arrive pas à être performant, on va dire. Après, tout dépend où on place le cursus de la performance, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que là, je suis reparti à l'entraînement, et ce qui est drôle, et je le dis, c'est que pour moi c'est plus dur, et je m'entraîne plus pour faire 2h25 sur un marathon que pour finir la Diagonale des Fous.
Là,
les gens
ne
comprennent pas forcément, mais aujourd'hui je pense qu'il y a plus de gens qui sont capables de faire la Diagonale des Fous que de faire 2h25 au marathon, par exemple. Donc là je suis reparti vraiment sur ce que j'aimais de
marathon
base, donc course sur route
à bloc,
marathon de Paris, en ligne de mire comme l'année dernière. C'est vrai que janvier, février, mars, c'est des périodes un peu plus light pour moi, où je peux m'entraîner.
Ouais.
Donc j'ai vraiment repris le chemin de l'entraînement. Ça y est, j'ai remis mes petites séances de piste en place. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faites.
Bon.
Je prends du plaisir. Donc objectif marathon de Paris. Et pour l'été prochain, par contre, j'exclus pas d'essayer d'être un peu compète sur trail. Mais si je veux, je pense vraiment m'amuser, il faudra que je sois sur plus du court, on va dire. Du trail court. Okay.
Et ben voilà, merci Dorian d'avoir été là. Je précise d'ailleurs que tu nous fais gagner un livre. Hein, voilà, mon coach running, un livre
plaisir.
À gagner sur nos différents réseaux sociaux.
Dédicacé.
Instagram dédicacé, évidemment.
Dédicacé. Allez.
Évidemment. Et pourquoi pas avec un A
de Denis. Ça pourrait être intéressant. Bon, merci Dorian, à bientôt. Tu viens quand tu veux.
Merci beaucoup les gars.
Salut Dorian.
Au plaisir, ciao.
Salut. Et on remercie Casquette Verte d'être venu. Bon, on peut le faire tous les ans. Tant que tu cours, on peut continuer. L'année 2023 de Casquette Verte dans un an.
Par contre, j'ai un planning qui est déjà chargé, donc c'est bien. Donne-moi déjà les dates pour 2023.
Alors, je vais te dire, on va faire ça le 7 décembre 2023. Voilà, le rendez-vous est noté.
Va, c'est nickel. Ce sera juste après la Lyon-Saint-Étienne.
Ah, voilà, ça sera noté.
Ah, voilà.
Comme ça, ça sera fait. Et puis, cette tradition, toujours pour terminer dans RMC Running, tu nous as donné les musiques que tu écoutes quand tu cours. Toi, t'as le temps d'écouter les trucs quand tu cours. T'écoutes RMC pour la Coupe du Monde, mais t'écoutes aussi de la musique.
Exactement.
Donc là, tu nous as choisi Only Just Begun, Manu Digital, c'est ça?
Exactement, c'est un son que j'ai. It's only just begun.
Manu Digital. Ça booste un peu.
Pas mal, ça booste un peu.
Petite ambiance quand tu traverses le Bad Boulogne.
Ah ouais.
Sympa. Et on peut terminer par One More Time de Daft Punk. Ah, ça, c'est indémodable.
C'est plus classique.
C'est plus qu'avancé, mais en fait, c'est plus en rapport avec mon année parce que je suis retourné sur des courses que j'avais déjà faites et faire des back-to-back ou des revictoires ou des trucs comme ça. Il y a même un trail, ils m'ont mis ça à l'arrivée, cool. Le Trail de Rouen. Donc, je commençais même à avoir mes propres musiques d'arrivée. Donc, on rentre dans un délire maintenant qui est totalement fou.
Et ben voilà, parfait. Alex, merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi et de raconter tes exploits. Merci, coach Yodu.
Merci
très sympa
à tous.
Encore une fois. Profitez bien, les gars, du foie gras et du saumon.
C'est ça. C'est le moment.
Et puis, on se retrouve rapidement pour continuer évidemment cette magnifique aventure qui est RMC Running, avec toujours ce conseil: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. RMC Running.